J'ai pas l'habitude de prêcher si tôt, alors c'est pour ça que j'étais un peu perdu. Je dormais, non. Merci Philippe. Voilà, ben je salue donc l'église évangélique de Villers, et puis celle aussi de Vendeuvre, et puis ceux qui ne font pas encore partie de l'une ou l'autre église. Et tout ce qui a été dit par le groupe de louanges ce matin, c'est vraiment quelque chose de formidable, parce que c'est là-dessus un peu que je vais prêcher. Et je vais prêcher aussi en parlant de l'église de Corinthe. Alors, je ne sais pas si... Oui, voilà. Donc, c'est une église qui est à l'école de l'amour. Vous m'entendez? Oui, ça va. Alors, parmi tous les textes bibliques sur l'amour, celui écrit par Paul dans 1 Corinthiens 13 est manifestement l'un des plus beaux, l'un des plus touchants. Inspiré par la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous conduit avec lyrisme dans une vérité spirituelle profonde désignée comme l'hymne biblique à l'amour. Hein, en Corinthiens 13, c'est ça. Ce texte, un joyau brut et absolu, ne peut se comprendre si on l'extrait de son écrin biblique, à savoir l'église de Corinthe. Donc c'est très lié à l'église de Corinthe. Arrêtons-nous un instant d'ailleurs sur la ville de Corinthe. À l'époque du Nouveau Testament, c'est une grosse cité grecque, animée et prospère. C'est une ville de divertissement, dans laquelle se retrouve le temple d'Aphrodite. C'est la déesse grecque de l'amour. Et là, dans ce temple, il y a des milliers de prêtresses et qui sont en réalité des prostituées rituelles qui, chaque soir, descendent dans Corinthe pour y exercer leur profession auprès des étrangers, des voyageurs étrangers et des hommes de la ville. Donc, même parmi les païens, la cité est connue pour sa débauche et le nom de la ville est devenu synonyme de déchéance morale. Alors, au sein de ce chaos moral va émerger une église du Christ. C'est l'apôtre Paul, soutenu par Priscille et Aquilas, qui en est le fondateur. Telle une oasis spirituelle dans un désert d'immoralité, eh bien, l'église de Corinthe s'est développée avec le temps. Cette église connaît toutefois de très sérieux problèmes de division, mais aussi d'immoralité. Certains vivent dans des péchés que même les païens ont du mal à commettre, tel l'inceste. C'est incroyable pour une église, hein ? Malgré tout, cette église ne manque d'aucune ressource spirituelle et elle a été comblée de nombreuses bénédictions. 1 Corinthiens 1,5 « Vous avez été comblés en Christ dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. » Cette église donc possède un énorme potentiel de puissance et d'espérance. 1 Corinthiens 1,7 « Il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez, comme nous, j'espère, à Vendeuvre, le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, à Vendeuvre et à Villers, bien sûr. » On peut malgré tout légitimement s'étonner et s'interroger sur une telle bénédiction dans une église touchée par des problèmes moraux. Pourtant Dieu, fidèle à lui-même, ne renonce jamais à équiper en don l'église du Christ. Alors Paul, lui, il va rappeler aux Corinthiens que dans l'église du Christ, et c'est un peu ce qu'on a dit ce matin, on y trouve toutes sortes de dons, mais un seul et même esprit. 1 Corinthiens 12,4. Que pour chacun dans l'église, l'esprit se manifeste d'une façon particulière par les dons qu'il accorde en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12,7. Que le même esprit distribue à chacun des membres ses dons comme il le veut. C'est lui qui décide. 1 Corinthiens 12, verset 11. Donc vous l'avez compris, hein, le Saint-Esprit distribue donc toutes sortes de dons spirituels aux membres dans le seul but d'édifier l'Église et de glorifier Dieu. Alors, il ne le fait pas en récompense à notre bon comportement, parce que nous sommes des exemples spirituels, non, mais pour permettre à l'Église du Christ de fonctionner. Voilà, c'est pas parce qu'on est des gens extraordinaires qu'on a des dons, c'est parce qu'il veut que l'Église fonctionne. Alors c'est bien de recevoir des dons spirituels, encore faut-il les pratiquer en les mettant au service de l'Église et non à son propre service, pour son intérêt personnel en cherchant sa propre gloire. Si le Saint-Esprit équipe des femmes et des hommes, on l'a dit, c'est pour le bien commun. Alors, je vais prendre un exemple qu'a pris Nathalie. Prenons l'exemple des équipes d'accueil. À qui je voudrais rendre donc hommage ce matin, ces équipes accueillent dans l'Église au nom du Christ. C'est vraiment un don particulier et important. Elles montrent un intérêt profond et réel aux membres et même aux visiteurs et les accueillent comme Christ les accueillerait. L'accueil édifie l'Église, mais toutes les activités ecclésiales devraient être animées par ce même esprit. Alors souvenons-nous aussi des paraboles proposées par Jésus sur les talents, par exemple, les dons reçus par l'Église. Et là, je vous laisserai lire, si ça vous intéresse, en Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Dieu lui reproche sévèrement à celles et ceux à qui il a confié des dons spirituels de les avoir mal utilisés ou pas utilisés du tout ou de les avoir enterrés. Vaut rien, fainéant, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers pour le faire fructifier. Qu'on lui retire son lingot, dit Jésus. J'aimerais ce matin encourager chacune, chacun à pratiquer son ou ses dons sans peur, sans timidité, en les mettant vraiment au service de l'Église. Alors voilà, l'Église a donc reçu des dons, elle les pratique, mais de quelle manière les pratique-t-elle? Par ses propres forces? Est-ce que je les pratique par moi-même, dans notre propre intérêt, égoïstement, ou par la puissance de l'Esprit qui habite en chaque croyant et dans l'Église? Je vais vous lire une phrase de John MacArthur, mais je vais la dire doucement parce qu'il faut la comprendre. C'était un théologien et écrivain américain. Il écrit ceci avec raison, je pense. « Ce n'est que dans une vie vraiment spirituelle qu'on peut exercer les dons de l'Esprit. La qualité de la vie spirituelle ne se reflète pas dans les dons spirituels, mais dans le fruit spirituel que nous portons, dont la première et la plus importante manifestation, c'est l'amour. C'est l'amour selon Galates 5:22. Autrement dit, c'est dans l'amour et par l'amour que nous devons pratiquer nos dons. Alors à présent, je vous propose de lire le beau texte de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8, que tout le monde connaît par cœur. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de transmettre des messages inspirés, que je comprenne tous les mystères et que je possède la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, ben je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de vouloir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les messages inspirés cesseront, le don des langues prendra fin et celui de la connaissance cessera, mais pas l'amour. Alors si peut-être comme moi vous avez observé la construction de ce très beau texte, vous avez observé qu'il s'articulait autour de trois grands axes. Les versets 1 à 3, Paul nous offre quatre superbes hyperboles. Le verset 4 à 8, Paul donne sept définitions positives sur ce qu'est l'amour et sept définitions négatives sur ce que n'est pas l'amour. Et c'est à partir donc de ce plan de construction que nous allons méditer ce matin sur comment pratiquer nos dons avec amour et par extension, nous comporter dans notre vie quotidienne avec amour. Alors dans les versets 1 à 3, Paul utilise un procédé hyperbolique. Alors après la parabole, voilà l'hyperbole qui n'est pas, comme certains le croient, un maximum de chance. Hein, j'ai eu plus que du bol. Non, soyons sérieux, c'est pas ça. L'hyperbole est un procédé que Paul utilise pour exagérer une situation afin de provoquer chez le lecteur ou l'auditeur une réaction. Je vais d'ailleurs ce matin, dans mon premier exemple, utiliser aussi l'hyperbole. Voilà, je prends une histoire. Supposons, hein, c'est une histoire, hein. Supposons que vous êtes à la tête d'une fortune qui s'élève à plus de 100 milliards d'euros. Vous êtes très très riche et vous pouvez tout vous payer, tout acheter. Swarovski, Morgan, etc. Hein, pour les dames. Hélas pour vous, lors d'une croisière, vous avez fait naufrage sur une île déserte où il n'y a pas âme qui vive. À quoi vous sert votre valise d'argent? Si vous ne pouvez pas le dépenser, il ne sert à rien. Frères, sœurs, si nous possédons les plus grands trésors spirituels que sont les dons de l'esprit, mais que nous n'avons pas l'amour pour les pratiquer, c'est pareil. Ça ne sert à rien. L'amour, c'est le vecteur qui rend efficace le don de Dieu. Paul, lui, il connaît parfaitement tous les dons présents dans l'Église de Corinthe. Mais il en connaît aussi les motivations. Certains dons sont recherchés plus spécifiquement que d'autres pour leur caractère spectaculaire, afin de pouvoir en faire étalage, pour se faire valoir ou les utiliser de manière autoritaire. Spirituellement, le méga problème des Corinthiens, c'est leur manque d'amour. Voilà pourquoi Paul les exhorte puissamment. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 1, on retrouve ça. « Recherchez avant toute chose l'amour. Mettez tout votre soin à en être rempli. » Voilà, c'est l'exhortation qu'apporte Paul et que j'apporte aussi à nos églises. Hein. Dans sa première hyperbole, l'apôtre Paul fait allusion à toutes celles et ceux qui, dans l'église de Corinthe, ont reçu le don de parler en langue. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Alors moi, je pense que le parler en langue est certes un don respectable et qu'il faut respecter. Mais pour autant, nous dit l'apôtre Paul, il doit obéir à certaines règles sans lesquelles il peut être pratiqué sans amour. Alors, je vais vous donner deux exemples personnels pour vous montrer ce qu'est et ce que n'est pas l'amour, pour moi, en tout cas. Moi, j'étais tout jeune chrétien et je me souviens m'être retrouvé dans un groupe de prière. C'était pas dans l'église, hein. C'était un groupe de prière extérieur. Et dans lequel la majorité des personnes priaient en langue. Et les gens m'ont dit, les personnes qui étaient là, m'ont dit, on va prier en langue. Moi, j'ai dit, j'étais jeune chrétien, mais j'ai osé dire, écoutez, moi, je connais pas les langues, je prie pas en langue. Alors, il y a une personne qui est venue vers moi qui m'a dit, demande à Dieu qu'il te donne le parler en langue. Dieu te donne à tous ceux qui demandent. Alors, ils ont commencé à prier tous en langue. Moi, je ne comprenais rien. J'ai sincèrement demandé à Dieu dans mon cœur qu'il me donne ce don. Et comme je ne le recevais pas, je me suis trouvé ridicule. J'ai dit, je vais dire n'importe quoi. Hein, comme ça, je ne parle pas en langue comme eux. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment idiot. C'était stupide de faire ça. Alors, je me suis senti vraiment isolé, blessé, etc. J'ai quitté ce groupe et je ne l'ai jamais revu. Tous parlent-ils en langue, demande Paul en 1 Corinthiens 12. Évidemment non, répond-il. Le chrétien qui parle en langue s'édifie lui seul. 1 Corinthiens 14, 4. La deuxième histoire, je suis marié. Enfin, c'est une histoire vraie. Hein. Je suis marié avec Wardia, qui est là, qui est d'origine algérienne, elle est kabyle. Et je suis entré dans ma belle famille en 1989. Jamais cette belle famille ne m'a exclu en parlant algérien ou kabyle entre eux. Jamais. Même ma belle-mère, qui parlait un mot kabyle, un mot italien, un mot français, eh bien, a toujours fait l'effort de parler avec moi. Frères, sœurs, dans ces deux exemples, qui a fait preuve d'amour à votre avis ? Je veux rendre grâce à notre assemblée certaines sœurs et certains frères parlent en langue, mais le font dans le respect de Dieu, dans le respect de la Bible et dans ceux qui n'ont pas ce don. Moi, quand je vois prière charismatique, ben, je n'y vais pas. Dans sa deuxième hyperbole, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont reçu le don de délivrer des messages dans l'assemblée, inspirés par l'Esprit. Supposons que j'ai le don de transmettre des messages inspirés, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, ben je ne suis rien. Frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, avez-vous noté le mot le plus important ? Oui ? Ben bien sûr, pour moi, il s'agit du participe passé inspiré. C'est bien un participe passé, non ? Vous le savez, tout le monde peut être à la limite prédicateur, même des personnes athées ou même prophètes. Un bon professeur de français peut écrire de beaux messages, un orateur peut faire vibrer les cœurs, même s'il est athée. L'apôtre Paul, lui, était un piètre orateur. Mais que dit-il ? 1 Corinthiens 2,4. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Et ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, c'est ça qui est important. Nous jugeons bien souvent sur l'apparence, sur l'art oratoire, la forme. Dieu lui juge au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Souvenez-vous, lors du jugement, nombreux seront ceux qui diront à Jésus, « Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé des messages de Dieu en ton nom. » En ton nom, en parlant de Jésus. Mais pas des messages peut-être inspirés par le Saint-Esprit. Je leur déclarerai alors, « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Matthieu 7, 23. On peut... tout à fait, frères et sœurs, prononcer des vérités bibliques. Hein, vous voyez ce prédicateur ? On peut tout à fait prononcer des vérités bibliques. Ce que dit ce prédicateur aux jeunes du camp d'été n'est pas faux. C'est même avec raison qu'il dit ça. Mais absolument pas enrobé de l'amour que donne le Saint-Esprit du Christ. Et ça peut faire fuir les jeunes. Ça, c'est un dessin qui est inspiré de crise de foi. Alors c'était du vécu, hein. Jacques, le frère de Jésus, dans son épître au chapitre 3 et verset 1, nous met en garde. Il dit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Moi j'y pense souvent ça. Cette mise en garde de Jacques devrait être constamment méditée par chaque prophète, chaque prédicateur, mais aussi chaque responsable d'église qui désigne des prédicateurs. Frères, sœurs, le véritable prophète, le véritable prédicateur, c'est celui qui est choisi par Dieu et inspiré par le Saint-Esprit. Alors me direz-vous, comment le savons-nous ? Eh bien, premièrement, parce qu'ils sont choisis par l'Église du Christ et désignés par les responsables spirituels anciens de l'Église. Attention aux prophètes autoproclamés, aux prédicateurs auto-désignés. Et puis deuxièmement, parce qu'ils portent le fruit de l'Esprit qui doit les inspirer dans leur vie, comme dans leur message. Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, certes, hein, ce n'est pas forcément des gens parfaits. Ce sont des pécheurs graciés par le sang du Christ et inspirés par le Saint-Esprit pour mettre en action avec amour le don qu'ils ont reçu. Et spirituellement, ils sont comme cette image, c'est-à-dire une nappe propre posée sur une table sale. La troisième hyperbole présentée par Paul concerne toutes celles et ceux qui ont reçu le don de la foi. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Frères, sœurs, ce n'est vraiment pas rien que d'avoir la foi. Voilà ce que dit Jésus, et des fois, on fait référence à ça. Matthieu 21, 21. Vraiment, je vous l'assure, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Cette parabole de Jésus, mal comprise, peut conduire à bien des dérives. Imaginez, tous ceux qui ont une foi profonde et sincère seraient tous multimilliardaires. Je crois, Seigneur, que je vais gagner au loto chaque mois. Vous voyez, ce n'est pas ça. Je vais vous donner deux exemples personnels de dérive de la foi vers un manque d'amour. Florent, qui était un jeune garçon que j'avais comme patient à Flavigny, était atteint d'une grave maladie génétique. Il m'a dit qu'un jour, une personne s'est avancée vers lui et lui a dit « Dieu veut te guérir, le veux-tu » Qu'est-ce que vous auriez répondu ?« Ah, bien sûr » a répondu Florent. L'homme a dit « Au nom de Jésus, tu es guéri !» Mais m'a dit Florent, rien ne s'est passé. Plus tard, lorsque je lui ai parlé de Jésus, il m'a dit combien cela l'avait blessé et totalement détourné de Dieu. Notre sœur Nicole, qui était dans cette église aussi, eh bien c'est vrai, elle a rencontré beaucoup de chrétiens sincères qui veulent tellement voir les gens guéris qu'ils disent et prient avec foi, « Tu es guéri, lève-toi et marche !» Cette démarche n'a rien à voir avec l'amour. Elle laisse des êtres blessés, culpabilisés, car ils pensent que s'ils ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils ont manqué de foi ou que Dieu ne les aime pas. Pourquoi cette parole de Jésus sur la foi est-elle mal interprétée ? Bien parce que la foi que Jésus demande ne concerne pas nos désirs personnels de voir les gens guéris. Moi, quand j'étais kiné à Flavigny, j'avais tellement envie que tous soient guéris, je priais pour eux, mais il n'y en a aucun qui a été guéri. Et ça ne concerne pas même nos pensées sincères, mais ça concerne uniquement la volonté de Dieu de guérir qui il veut. C'est lui et lui seul qui décide, ce n'est pas moi. Beaucoup de chrétiens, et peut-être y en a-t-il ce matin dans cette salle, qui pensent sincèrement que c'est la volonté de Dieu de guérir tous les malades de cette terre, parce qu'ils ne supportent pas de voir des malades, et de faire se lever et marcher tous les paralysés. Eh bien, cette pensée, je le crois, fait partie des fausses croyances. Ouvrons la Bible pour nous en convaincre. Là, j'ai marqué Luc 14, 27, mais c'est Luc 4, verset 27. Et je remercie François qui me l'a signalé. Et Luc 4, 27 dit « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri, seul le Syrien Naaman l'a été. » Pourquoi lui ? C'est une décision de Dieu. Frères, sœurs, soyons plus que prudents et souvenons-nous que c'est Dieu et Dieu seul qui décide de la guérison, pas nous. Enfin, la quatrième hyperbole, utilisée par Paul, concerne toutes celles et ceux qui sacrifient leur temps, leur argent, leur vie pour les autres. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de vouloir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors on peut certes donner sa vie pour une cause noble. C'est le cas de ce bonze qui est là, qui s'immole par le feu. Ou ce soldat français, André Agé, mort en Ukraine à 22 ans pour soutenir le peuple ukrainien. On peut même sacrifier sa vie pour un amour déçu. Mais tous ces actes ont-ils pour fruit l'amour ? Dans l'Église, je peux participer à toutes les activités, prendre toutes les responsabilités possibles. Si pour cela je délaisse ma famille, est-ce que c'est de l'amour ? Dans l'Église, si je pratique mon don en râlant, en m'irritant contre les autres, est-ce de l'amour ? En réalité, très très peu de sacrifices sont désintéressés et faits par amour. L'exemple d'amour sacrifice le plus remarquable est celui de Jésus. Romains 5, versets 7 à 8. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un être de bien. Il peut arriver que, pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais Christ est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime ? Le sacrifice est un don qui n'attend rien en retour. Celle ou celui qui attend une récompense, eh bien, il ne pratique pas l'amour. Quand Paul parle de l'amour, c'est bien de l'amour qui n'attend rien en retour, qui se sacrifie pour les autres, dont il parle. Théologiquement, on parle de l'amour agapé, philéo, eros. Moi, je vais être ce matin, et je m'en excuse d'avance, être plus simple, plus direct, donc plus critiquable. Pour moi, il existe un amour divin et un amour humain. On ne peut pas être plus simple. Hein. Lorsque j'étais enfant, ça remonte à loin, chaque matin, avant la classe, on nous faisait une leçon de morale. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Oui, Martine, tu as connu ça. Et moi, je me souviens encore aujourd'hui de cette histoire reprise en chanson par Marie Laforêt. Il y a une maman et son enfant, et l'enfant dit à sa maman, « Maman, pour avoir fait mon lit toute la semaine, ça sera 3 euros. Pour être allé en commission, 1 euro. Pour avoir surveillé le bébé, 1,25 euro. Pour avoir descendu et remonté la poubelle, 2 euros. Pour avoir arrosé tes plantes, 1,50 euro. « Maman, tu me dois 8,75 euros. » Maman, elle regarde son enfant et elle dit « Mon petit chéri, pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance, cadeau. Pour tant de nuits de veille à surveiller ton sommeil, cadeau. Pour les jours de manège, pour le collège, cadeau. Total de mon amour, c'est cadeau. » Pour moi, l'amour humain est symbolisé par cet enfant qui fait les choses et attend en retour. Et l'amour divin par cette mère qui fait grâce à son enfant, qui lui donne de tout son cœur par amour ses cadeaux. Jésus, ses cadeaux. C'est ça l'amour du Christ. L'amour humain est parfois envieux. Il jalouse le don des autres, ce qu'a l'autre, ses réussites. L'amour humain cherche à se faire valoir. « Regarde tout ce que je fais pour Dieu. » Il est souvent en prend d'orgueil. L'amour humain est parfois inconvenant. Il lui arrive de manquer de tact. L'amour humain cherche souvent son propre intérêt. Qu'est-ce que j'aime Wardia quand elle me laisse la télé pour voir les matchs de foot? Je l'aime plus que d'habitude. Il arrive à l'amour humain de s'irriter après les autres parce qu'ils ne le font pas ou font mal les choses. Il arrive à l'amour humain de soupçonner le mal. Imaginez, un frère ou une sœur passe à côté de moi sans me dire bonjour. Je peux imaginer qu'elle m'en veut. Mais peut-être que c'est un simple oubli ou elle est préoccupée. L'amour divin, lui, comme son nom l'indique, vient de Dieu. De Dieu qui est amour, 1 Jean 4, 8. Cet amour, tel un fleuve puissant, coule du cœur même de Dieu et est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite chaque croyant né de nouveau. Romains 5, 5 le dit clairement. C'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est lui. Nous possédons donc cet amour divin. Nous le possédons. Et dans un monde où tout va vite, où l'on veut tout de suite, l'amour divin est patient. Dans un monde méchant, féroce, l'amour divin est plein de bonté. Dans un monde de fake news, de mensonges, l'amour divin se réjouit de la vérité. Dans un monde sans pardon, l'amour divin excuse tout. Dans un monde où l'on croit, où l'on ne croit plus en Dieu, eh bien l'amour divin croit tout ce que dit la Bible. Dans un monde quasi désespéré, l'amour divin espère tout. Et dans un monde stressé, l'amour divin supporte tout. Alors peut-être pensez-vous comme moi et vous dites-vous, moi je ne pratique pas cet amour divin. Il est hors de ma portée. Pourtant, ce que dit Paul clairement ce matin et à plusieurs reprises, est que si l'on n'a pas cet amour et que l'on ne le met pas en pratique, on n'est rien. Pourtant, frères et sœurs, nous l'avons dit, cet amour divin est en nous, il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui le met en action. Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16, nous donne la voie à suivre. Galates 5, 16. « Je vous dis ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de votre nature pécheresse, de votre nature charnelle. » Alors, est-ce que je dirige ma vie par mes propres forces ou je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie ? Baptiste de Question. Si c'est moi qui la dirige, je vais produire un amour humain. Si c'est le Saint-Esprit, il produit en moi un amour divin. Et comme on l'a dit, c'est du cœur du Père que coule un torrent d'amour divin. C'est du cœur du Père que nous sommes toutes et tous invités à nous approcher quotidiennement, le plus possible, pour créer une intimité, une proximité et recevoir par le Saint-Esprit l'amour parfait du Christ. Et je vais terminer donc cette prédication, ce message, en vous racontant une histoire sous forme de parabole. Il y a de cela plusieurs années, avec l'Église, nous étions à la campagne à Allan, près de Toul. Et c'était la fin septembre, et nous avions décidé de terminer le week-end en faisant des chants et prières autour d'un grand feu de camp. La soirée était terriblement fraîche, et le feu était le bienvenu. Puis à un moment de la soirée, moi je me suis dit, peut-être que nos chants, la musique, ça perturbe les gens qui sont dans les maisons à côté. Donc je me suis reculé, je suis allé à côté des maisons pour voir si on entendait la musique. Et là, je voyais toujours le feu, hein. Comme nous, dans les églises, on voit toujours Dieu. Mais en m'éloignant, je ne sentais plus la chaleur du feu. Et il a fallu que je revienne vers le brasier pour vraiment me sentir bien. S'éloigner de Dieu, c'est se priver de la chaleur de son amour divin. Alors je vous remercie ce matin pour votre écoute. Je vous invite à présent à méditer vraiment tout ce qui a été dit dans ce message, en chantant le beau chant que je demande au groupe de louanges de reprendre, et puis à vous aussi, cet amour.